Chapitre 23. Labourdin posa ses mains à plat sur le bureau, avec le même air satisfait qu'à table à l'arrivée de l'omelette norvégienne. Mademoiselle Raymond n'avait rien d'une crème glacée, pour autant, la ressemblance avec la meringue dorée n'était pas totalement dénuée de sens. C'était une fausse blonde tournant au roux, avec un teint très pâle et une tête un peu pointue. Quand elle entrait et voyait son patron dans cette position, Mademoiselle Raymond adoptait une moue dégoûtée et fataliste. Parce que, dès qu'elle était devant lui, il glissait la main droite sous sa jupe, geste d'une incroyable rapidité chez un homme de sa corpulence et d'une habileté qu'on ne lui connaissait dans aucun autre domaine. Elle effectuait alors un rapide mouvement de hanche, mais Labourdin dans ce registre était doté d'une intuition qui frisait la divination. Quelle que soit l'esquive, il parvenait toujours à ses fins. Elle en avait pris son parti, se tortillait rapidement, déposait le parapheur et se contentait, en sortant, de pousser un soupir de lassitude. Les obstacles dérisoires, pathétiques qu'elle tentait d'opposer à cette pratique, des robes ou des jupes de plus en plus serrées, décuplaient le plaisir de Labourdin. Si elle se montrait une secrétaire assez médiocre en sténographie et en orthographe, sa patience rachetait largement ses défauts. Labourdin ouvrit le dossier, fit claquer sa langue. Monsieur Péricourt allait être content. C'était un beau règlement mettant au concours entre des artistes de nationalité française le projet d'édification d'un monument aux morts de la guerre 14-18. Dans ce long document, Labourdin n'avait rédigé lui-même qu'une seule phrase, la deuxième de l'article 1. Il avait tenu à le faire lui-même, sans l'aide de personne. Chaque mot, parfaitement pesé, était de sa main, ainsi que chaque majuscule. Il en était si fier qu'il exigea que cette phrase soit écrite en caractère gras. Ce monument devra exprimer le souvenir douloureux et glorieux de nos morts victorieux. Parfaitement cadencé. Nouveau claquement de langue, il s'admira encore, puis parcourut rapidement le reste du texte. On avait trouvé un bel emplacement, autrefois occupé par le garage municipal, 40 mètres de façade, 30 de profondeur, la possibilité d'aménager un jardin tout autour. Le règlement précisait que les dimensions du monument devaient être en harmonie avec l'emplacement choisi. Pour inscrire tous ces noms, il fallait de la place. L'opération était quasiment bouclée, un jury de 14 personnes comprenant élus, artistes locaux, militaires, représentants des anciens combattants, des familles, etc. Tout cela trié sur le volet parmi les gens qui devaient quelque chose à Labourdin ou attendaient de lui une faveur, il présidait le comité avec voix décisionnaire. Cette initiative hautement artistique et patriotique apparaîtrait en tête des réalisations dans le compte-rendu de son mandat. Réélection quasiment assurée. Le calendrier était arrêté, le concours allait être lancé, les travaux d'aplanissement débutaient, l'annonce serait publiée dans les principaux journaux de Paris et de province. Une belle affaire vraiment et bien menée. Ne manquait rien. Juste un blanc à l'article 4. La somme à dépenser pour le monument est de... Cela plongea M. Péricourt dans une intense réflexion. Il voulait quelque chose de beau, mais pas de grandiose, et, selon les informations qu'on lui avait transmises, pour un monument de ce genre, les prix allaient de 60 à 120 000 francs, certains artistes réputés vous demandaient même des 150, 180 000 francs, avec un éventail pareil où fixer la barre. Il ne s'agissait pas d'une affaire d'argent, mais de juste mesure. Réfléchir. Son regard se porta vers son fils. Un mois plus tôt, Madeleine avait déposé sur sa cheminée une photographie d'Édouard encadrée à son intention. Elle en possédait d'autres, elle avait choisi celle-ci, qui lui avait semblé moyenne, ni trop sage, ni trop provocante, acceptable. Ce qui se passait dans la vie de son père la bouleversait, et comme elle s'inquiétait des proportions que cela prenait, elle agissait avec doigté, par petites touches, un jour le carnet de croquis, un autre une photographie. Monsieur Péricourt avait attendu 2 jours avant de rapprocher la photographie, de la poser sur le coin de son bureau. Il ne voulut pas demander à Madeleine de quand elle datait, ni à quel endroit elle avait été prise. Un père était censé savoir ces choses-là. Selon lui, Édouard avait 14 ans, ça devait donc remonter à 1906. Il posait devant une balustrade en bois, on ne voyait pas l'arrière-plan, le cliché semblait pris à la terrasse d'un chalet, on l'envoyait au ski chaque hiver. Monsieur Péricourt ne se souvenait pas précisément de l'endroit, sauf que c'était toujours la même station, dans les Alpes du Nord, ou peut-être celle du Sud, enfin dans les Alpes en tout cas. Son fils posait en pullover et clignait des yeux à cause du soleil, tout sourire, comme si quelqu'un grimaçait derrière l'opérateur. Cela amusa à son tour Monsieur Péricourt. C'était un bel enfant, espiègle. De sourire ainsi ce jour-là, tant d'années après, lui rappela que son fils et lui n'avaient jamais ri ensemble. Cela lui brisa le cœur. Il eut alors l'idée de retourner le cadre. En bas, Madeleine avait écrit « 1903, les Buttes-Chaumont ». Monsieur Péricourt dévissa son stylo et inscrivit 200 000 francs.